Merci, bonjour à tout le monde. Merci aux organisateurs de m'avoir invité, malgré mon passé. parce que je pense que le sujet est vraiment d'actualité. En tout cas, chez nous, en Belgique, il est vraiment d'actualité. Il tombe très très bien dans une situation politique extrêmement particulière, totalement originale. Et je l'évoquerai tout à l'heure, je pense qu'il risque d'avoir des incidences peut-être fortes sur les options qui seront prises quant à l'avenir de la justice. Je voulais également remercier Antoine Guérapon pour son apport, pour cette réflexion personnelle, parce que je vais vous dire, on en a besoin. Nous sommes sur le terrain, les mains dans le cambouis, le nez dans le guidon, enfin, il y a encore d'autres expressions, mais je me limiterai à ces deux. Et on a besoin à un moment donné de pouvoir respirer, de pouvoir réfléchir. Et là, l'ouvrage, moi vraiment, m'a beaucoup interpellé. Et je ne vous cache pas que je suis un peu déstabilisé. Non pas que je suis un fervent défenseur du management, du New Public Management, certainement pas. Mais vous mettez quand même des choses en perspective qui sont vraiment très intéressantes et très interpellantes pour nous qui sommes impliqués dans des réformes ou bien peut-être à proposer d'autres réformes. Alors moi, je voulais avec vous partager mes réflexions quant à la modernisation de l'ordre judiciaire actuellement en cours chez nous, et puis également partager avec vous mes inquiétudes quant à l'avenir de la justice en Belgique. Alors, la justice, comme en Belgique comme en France, c'est un chantier permanent, un peu comme les routes wallonnes, je dis souvent. Ça fait plus de 20 ans qu'on y travaille et ça va plus ou moins bien. Les années 90, rappelez-vous, la déferlante après l'affaire du trou, la marche blanche, la cour Octopus qui a été vraiment longtemps évoquée, la création du Conseil supérieur de la justice, l'introduction des mandats à temps des chefs de corps, et puis fin des années 90, début des années 2000, l'informatisation, rappelez-vous, le projet Phoenix. Je dis à notre invité français qu'on a l'habitude ici de faire des références à l'Égypte, donc Phoenix. Nous avons Khéops et puis peut-être bientôt Nefertiti, je ne sais pas, on verra. Les années 2000 sont riches aussi en innovation. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'initiatives. Le Conseil supérieur a également mis en place les baromètres de la justice. On a maintenant des retours par rapport à une série de choses dont vous parlez également dans votre livre. Et puis les années 2000, c'est la commission de modernisation, hein, fille des années 2000, puisqu'elle est créée par une loi en 2006. Elle trouve son origine en deux mots dans un plan de réorganisation. C'est une note de politique générale qui s'appelait le plan Thémis. C'était l'époque du gouvernement Verhofstadt II, le 10 mars 2006. Le plan prévoyait, à terme, moyen terme, une autonomisation du pouvoir judiciaire. Ça, c'était le but du plan Thémis. Dans un premier temps, c'était de décentraliser la gestion, donc quitter le SPF Justice, le ministère de la Justice, pour aller vers de nouveaux niveaux de pouvoir qui étaient les ressorts de cours d'appel ainsi que les arrondissements. Une gestion duale avec les deux piliers fondateurs, le ministère public d'un côté, le siège de l'autre côté. On décentralisait le budget, la gestion du personnel, les bâtiments, les frais de justice en matière pénale. Et puis, l'équipe de la commission de modernisation est désignée en mars 2007, et au moment où nous prenons nos fonctions, les élections interviennent, et c'est le début des négociations dites orange-bleu, qui ne vont pas aboutir, et pendant toute cette période, nous allons être en jachère, parce que le gouvernement est démissionnaire, les affaires courantes, bref, le plan Thémis n'est pas mis en œuvre. Et le 22 décembre 2007, le gouvernement, le terme premier, prend ses fonctions. Le ministre Van der Zon arrive et très vite dans la foulée nous dit « Moi, je ne crois pas au plan Thémis, je veux en faire un autre ». Un an plus tard, l'affaire Fortis, et le ministre Van der Zon est remplacé par Stéphane de Klerk, qui très vite nous dit « Je ne crois pas du tout au plan Thémis, ni au plan Van der Zon, je veux en faire un autre. » Et puis, voilà, nous sommes là, en principe au départ chargés pour mettre en œuvre le plan Thémis. Et puis, on ne l'a jamais fait, et je pense que nous ne le ferons jamais, me semble-t-il. Et nous nous sommes trouvés dans une situation extrêmement particulière, parce qu'il y avait ce contexte politique extrêmement difficile, puisqu'il n'y avait pas de ligne claire, il n'y avait, à la limite, il n'y avait même plus de pouvoir, puisque tout était en jeu, et nous devions commencer nos travaux. Alors, oui, personne, autour de la table, puisque à l'époque nous étions 8, aujourd'hui nous sommes 12, qui doivent organiser des travaux avec une mission extrêmement large, puisque c'est participer à l'œuvre de modernisation de la gestion de l'ordre judiciaire. Notre action étant centrée sur la gestion de l'ordre judiciaire, on n'est pas chargé de moderniser la justice comme parfois on nous le demande. Et donc, eh bien, on a fait un peu comme dans le privé, on s'est dit, bien, réfléchissons un peu à notre vision d'un ordre judiciaire moderne, réfléchissons un peu à notre mission, et puis nous avons commencé à écrire cette vision, cette mission, et puis des objectifs opérationnels, centrés sur 4 choses. Il nous semblait nécessaire d'avoir des objectifs en matière de moyens, en matière de processus judiciaire et administratif, de structure judiciaire et de structure administrative, et puis également, on souhaitait contribuer à plus de transparence dans le travail de l'ordre judiciaire. Et puis surtout, vu la situation politique difficile, on s'était dit, mais bon, nous devons naturellement assurer à nos travaux un caractère durable. Il ne fallait pas commencer à travailler sur le plan Thémis alors qu'on savait très bien qu'il avait du plomb dans l'aile. Donc il fallait vraiment essayer de faire en sorte que les projets que nous allions mener puissent être utilisés, quelle que soit la décision politique quant à l'environnement judiciaire. Et puis on a commencé à réfléchir aussi en disant, mais bon, pour nous, la notion de service public était une notion importante. Comment participer à l'amélioration de ce service public justice qui est particulier, qui a sa spécificité, en ne touchant pas, plutôt, en ne portant pas atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Peut-on concevoir tout compte fait la justice comme une entreprise, comme une institution, en respectant cette indépendance constitutionnelle? Est-ce qu'on peut commencer à réfléchir avec une logique de rationalisation, avec une logique d'efficacité, avec une logique de transparence? Bref, nous étions animés de toutes ces questions. Peut-être qu'elles n'étaient pas formulées de cette manière-là en 2007, mais elles étaient déjà toutes présentes. Et puis on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va? Ou bien est-ce qu'on est plutôt observateur? Est-ce qu'on descend sur le terrain et on va voir les juridictions, on va voir les autorités judiciaires? Ou bien au contraire, on va rendre des avis comme d'autres, parce qu'en Belgique, on a quand même quelques institutions qui peuvent rendre des avis. Et puis on s'est dit non, on ne va pas rendre d'avis, on veut être porteur de projet. Nous allons aller sur le terrain et nous allons essayer de travailler en partenariat avec les autorités judiciaires. Et puis bon, les projets que nous avons menés, il y en a, on a mené sans partenaires, d'autres avec des partenaires, donc cela a été extrêmement varié. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure que le temps a évolué, nous avons également évolué par rapport aux projets, et je dois bien reconnaître que l'appel à des projets outils est un appel extrêmement fort. Mettre au point des outils pour permettre aux autorités judiciaires, par exemple, de mieux gérer, de mieux juger, de mieux, etc. Mais en même temps, aussi, cette réflexion, on n'est quand même pas là non plus pour faire que des outils. Et donc, aujourd'hui, on est en train de se poser des questions au sein de l'équipe. On a plusieurs projets où on fait des outils. Par exemple, c'est la question du coût des produits judiciaires. On a mis au point un modèle informatique qui permettrait de calculer le coût des produits judiciaires dans les justices de paix. Ça, c'est un exemple d'outils. Il y a également, on participe à la mesure de la charge de travail dans les cours d'appel. Donc là, on met au point une méthodologie qui est mise à la disposition du siège. Et puis, on commence depuis quelques jours, enfin, ça sera la première réunion avec l'ordre judiciaire la semaine prochaine, un projet qui concerne la charge psychosociale du travail judiciaire. Où là, on ne va pas faire d'outils, où là, c'est le bien-être au travail qui nous préoccupe. C'est l'hypothèse où un acteur judiciaire, qu'il soit magistrat ou pas magistrat, qu'il soit greffier, se trouve confronté à une violence au travail. Soit il en est victime, soit il est témoin d'eux. et il doit naturellement pouvoir continuer à faire son travail, parfois dans des conditions extrêmement difficiles. On a constaté qu'il n'y avait pas de lieu de parole, d'échange, il n'y avait pas de lieu pour en discuter avec quelqu'un, avec toute la, tout l'aspect confidentialité garanti. C'est étonnant. L'ordre judiciaire belge, c'est 11 000 personnes. 11 000 personnes. Et on constate que la notion de bien-être au travail est une notion totalement absente. Totalement absente. Et plus on monte dans l'échelle, je veux dire que si on parle avec les niveaux D, si on parle avec les niveaux C, B, A, si on va dans la magistrature, eh bien, c'est de pire en pire. Donc, je pense que c'est un projet qui se détache très fort de cette notion d'outil. Management judiciaire. Alors, sauf erreur de ma part, je pense qu'en Belgique, il n'y a jamais eu de moment fondateur quant à un modèle de justice. Je ne pense pas qu'à un moment donné, le pouvoir politique, le pouvoir judiciaire et d'autres se sont mis autour de la table pour dire, bien, quel modèle voulons-nous demain ? Qu'est-ce que ça veut dire le management judiciaire ? Est-ce que nous le voulons ? Quand je dis modèle, je dis modèle en général, mais ça peut être également un modèle de gestion. Est-ce que nous voulons, par exemple, que les magistrats prennent une part active dans la gestion des cours et tribunaux ? Est-ce qu'on va demander à un président de tribunal ou à un procureur de rédiger un budget à un moment donné ? Je ne pense pas que nous avons eu de moment fondateur. Par contre, il y a eu énormément d'initiatives et après avoir lu votre livre, je me suis dit, mais tiens, tout compte fait, est-ce qu'on peut, puisque chez nous, nous avons la tradition des coalitions politiques, identifier un mouvement qui aurait été celui qui, un mouvement politique, qui aurait été celui qui a proposé le plus d'initiatives. Eh bien, je dois dire que non. Si je prends les trois législatures, depuis 99 jusqu'à 2010, 99-2003, c'est un ministre libéral flamand. Il propose et il introduit la mesure de la charte de travail du ministère public avec l'aide d'une société privée. Beaucoup de recherches sont lancées avec l'aide du service de politique criminelle et on travaille sur la qualité intégrale au sein du ministère public. Donc il y a un gros investissement à ce niveau-là. 2003-2007, c'est une ministre socialiste francophone. Et là, on a le plan Thémis, on a la réforme des carrières de personnel, l'autorité du président sur les greffiers en chef, la création de l'Institut de formation judiciaire, la commission de modernisation. Et puis 2007-2010, c'est un ministre social chrétien flamand. Et là, nous avons le plan Atomium. Il propose le management intégral. Bref, 99-2010, il y a une série d'initiatives et on ne peut pas dire que donc il y a une famille politique plutôt qu'une autre qui. Alors, une sociologue française, Cécile Vigour, en 2008, elle faisait une comparaison entre les systèmes belges, français, italiens, écrivait « C'est sans conteste en Belgique que l'approche managériale a été poussée le plus loin parmi les trois pays ». J'étais un peu étonné, donc je me suis dit « Ah bon, tiens, ça m'a échappé ». Et puis, j'ai commencé à chercher, mais pas dire à creuser, mais et très vite, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait quand même pas mal de choses qui avaient été adoptées. Et je vais vous les citer pour respecter le timing sans entrer dans un grand développement. On a eu tout d'abord, en 2000, les profils généraux de fonction élaborés par le Conseil supérieur de la justice. Nous sommes en 2000. Et le Conseil supérieur, ce sont ses premières années, va vraiment chercher l'inspiration aux Pays-Bas. Et très clairement, quand on lit le moniteur, on voit la référence claire aux Pays-Bas. On explique avant de se lancer dans l'élaboration des profils, il faut une réflexion sur une vision à long terme quant à l'organisation, une définition des missions, sa véritable raison d'être, ses composantes, etc. Et le Conseil supérieur dit, effectivement, c'est la bonne méthode. Et cette méthode est restée. Le seul problème, le seul hic, c'est que tout compte fait, on n'a jamais fait la vision, la mission, la raison d'être, etc. Tout ça est passé au bleu, passez-moi l'expression. Et donc on en est là, avec un discours, avec des profils généraux de fonction, mais qui ne correspondent pas à l'environnement de l'ordre judiciaire belge tel qu'il existe aujourd'hui. Deuxième élément, le plan de gestion. Depuis quelques années, on demande aux candidats à un poste de chef de corps de présenter un plan de gestion. Et dans ce plan de gestion, il doit parler de sa conception de l'organisation de la juridiction, ses intentions, ses objectifs, les résultats qu'il veut atteindre, etc. Bon, on travaille beaucoup sur ces plans de gestion, parfois avec l'aide de tiers. Hein, on me dit qu'il y a des coachs qui interviennent maintenant pour faire ces plans de gestion. Ils sont présentés au Conseil supérieur de la justice. Le Conseil propose une personne à la nomination, et puis cette personne entre en fonction, et puis plus rien. Plus rien dans le sens que le plan de gestion, on ne s'en préoccupe plus. Plus personne ne vérifie s'il est implémenté, comme on dit. Est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce qu'on communique aux membres de la juridiction? On ne le sait pas. Alors, c'est assez étonnant, naturellement, parce qu'on demande un investissement et ensuite, on ne s'en préoccupe plus. Alors, moi, ma proposition, c'est pourquoi le Conseil supérieur ne s'empare pas de cette question, essaye de faire, toujours pour parler franglais, un monitoring de tous ces plans de gestion, bref, un grand tableau de bord. Troisième exemple, où on dit le chef de corps doit devenir un manager, il a, le président ou le premier président, a autorité sur le chef du greffe. Ça, c'est important parce qu'avant, la ligne hiérarchique était une flèche brisée, elle s'arrêtait au niveau du greffier en chef, tandis qu'aujourd'hui, c'est le patron, c'est vraiment le ou la présidente. Ça, c'est le patron. Ça me paraît quand même important. Et puis, en continuant à chercher, j'ai constaté qu'on avait introduit l'évaluation des chefs de corps pour le siège, pour le ministère public. Innovation intéressante, parce que là, en introduisant l'évaluation, on faisait référence au plan de gestion. C'est la seule référence qu'on fait au plan de gestion. Malheureusement, la Cour constitutionnelle a annulé une partie de la loi et a supprimé l'évaluation pour les magistrats la magistrature assise. Donc les présidents, premiers présidents et autres, ne sont plus évalués. Seuls les chefs de corps du ministère public le sont. Donc on a une double réalité. Certains le sont, d'autres ne le sont pas. Et pourtant, l'évaluation proposée était intéressante parce qu'on introduisait la notion, un, de collège d'évaluation avec des magistrats et des non-magistrats. Deux, la notion d'entretien. Il y avait deux entretiens au cours duquel on disait, tiens, comment s'est passée votre implémentation du plan de gestion. Et puis aussi, on introduisait deux spécialistes. Il y avait un magistrat de la Cour des comptes et un spécialiste en ressources humaines désigné par le ministre de la Justice pour le dernier. Et là, la Cour constitutionnelle, quand elle a rendu son arrêt le 1er septembre 2008, dit, bon, un, il y a un problème, la Constitution ne prévoit pas l'évaluation de la magistrature assise en ce qui concerne les chefs de corps. Donc, ça ne peut pas être. Deux, elle dit, en donnant ou en conférant une voix délibérative à un magistrat de la Cour des comptes et à un spécialiste en gestion des ressources humaines, eh bien, on viole la séparation des pouvoirs et on porte atteinte à la discriminatoire, à l'indépendance de l'ordre, enfin, du pouvoir judiciaire. Alors, c'était intéressant, cette évaluation. Malheureusement, elle ne peut plus avoir lieu. On me dit maintenant qu'on pourrait en parler prochainement à la Chambre. Il y avait également le plan Thémis. Il y a eu la réforme des carrières, donc c'était le Copernic judiciaire. Et puis plus récemment, il y a eu les travaux menés par les chefs de corps avec le concours du Conseil supérieur de la justice, où la magistrature assise a proposé trois choses. Un, réorganiser la carte judiciaire. Deux, un grand tribunal de première instance. Trois, les chefs de corps prennent une part plus active dans un mode de gestion autonome. C'est naturellement très intéressant, cette prise de position, parce qu'on voit là la magistrature qui se manifeste. Et enfin, Atomium, le projet du ministre Stéphane de Clercq, avec l'introduction du management intégral. Alors bon, on peut se poser une série de questions. La justice a-t-elle besoin du management ou de management? Peut-on introduire des logiques managériales et gestionnaires sans porter atteinte aux principes constitutionnels d'indépendance et d'autonomie? Alors, personnellement, je pense qu'il faut faire quelque chose. Et donc, il faut introduire, je ne dis pas le new public management, ni les règles du privé, mais il y a une série de choses, à mon sens, qui doivent être introduites. Il y a donc une certaine logique de gestionnarisation qui doit être introduite. Mais personnellement, et comme beaucoup de mes collègues à la Commission, nous sommes des autonomistes, c'est-à-dire que nous pensons qu'il faut donner l'autonomie budgétaire au pouvoir judiciaire et donc le doter de moyens suffisants via une dotation. Maintenant, ceci étant, et c'est vraiment mon cheval de bataille, je pense qu'il manque aujourd'hui une vision globale du modèle de justice que nous voulons. Il n'y en a pas. Et je crois qu'il est essentiel de reconsidérer la manière dont la justice est administrée. Je pense que c'est vraiment essentiel aujourd'hui. Et ce débat, cette réflexion n'est pas menée aujourd'hui. Je crois que c'est vraiment un gros problème. Deux, je pense aussi qu'il y a un manque de continuité et de cohérence dans la conception des réformes. Que ce soit de la conception politique à la mise en œuvre, il y a vraiment de gros problèmes. Il y a sans arrêt des brisures et qui portent atteinte vraiment à la qualité de la réforme. Et puis enfin, il y a le manque de moyens adéquats. Je parle moyens au sens large. C'est non seulement les moyens budgétaires, mais également les ressources humaines. Je pense en termes d'expertise, de capacité professionnelle en matière de gestion. Depuis 2009, le budget de la justice a vraiment subi un coup de frein. 2010-2011, ce sont des budgets en diminution. Comment peut-on concevoir une réforme d'ampleur alors que le budget de la justice est en diminution? Alors, si vous regardez les documents parlementaires, contrairement à ce que je dis, il n'est pas en diminution, mais il faut entrer naturellement dans les postes budgétaires pour constater que les moyens attribués à l'ordre judiciaire, à l'organisation judiciaire, sont en diminution. Et ça me pose naturellement une série de difficultés. Alors naturellement, qui dit rigueur dit naturellement cette tentation de prendre des règles. Et je relis le plan de Stéphane de Clercq avec ce management intégral. Son principe était d'accorder aux tribunaux des enveloppes budgétaires. Enveloppes budgétaires semi-ouvertes, semi-fermées, c'était encore à discuter, mais des enveloppes budgétaires. Alors, est-ce qu'il y a un risque pour l'indépendance? Je vais prendre un exemple, je vais forcer le trait, mais je pense qu'il est vraiment éclairant. Ce sont les frais de justice en matière répressive. En France comme en Belgique, c'est l'explosion, partout en Europe, je pense. Chez nous, en 95, 31 millions d'euros. Aujourd'hui, 2010, 106 millions d'euros, et en plus, on a 16 millions non payés, donc ça veut dire 122 millions d'euros, donc pratiquement 4 fois plus en 6 ans. Donc c'est énorme, naturellement. Et les nouvelles technologies, enfin, il y a beaucoup d'explications à pourquoi ça augmente, etc. Mais néanmoins, ce qui se passe, c'est que à chaque fois, le budget prévisionnel pour les frais de justice n'est pas suffisant pour faire face aux obligations de l'État. Et donc, comment fait-on pour payer les factures? C'est le principe dit de la fongibilité des articles budgétaires qui permet de trouver une réponse. Autrement dit, ce qui a été prévu pour les frais de justice n'étant pas suffisant, on va chercher dans un autre poste budgétaire les moyens dont on a besoin. C'est un, les frais de fonctionnement classiques qui payent, et deux, c'est les frais de personnel. Pourquoi les frais de personnel? Parce que chez nous, nous avons un système de vacances, de places vacantes, qui sont budgétées et donc qui créent un bas de laine. Alors, c'est intéressant parce que, bon, il n'y a pas de préjudice puisqu'on va puiser dans le bas de laine. Naturellement, la gestion des ressources humaines se professionnalisant, le bas de laine va en principe de plus en plus diminuer. Donc, que fait-on quand on n'aura plus ce bas de laine? Eh bien, là est la difficulté. Alors, on peut se poser la question naturellement parce que si on dit demain, vous, président du tribunal de Bruxelles, vous avez une enveloppe budgétaire, ce président peut-être sera tenté de dire « Écoutez, moi, je vais faire des sous-enveloppes. » Et par exemple, pour les frais de justice, j'ai ma sous-enveloppe. J'ai 21 juges d'instruction à Bruxelles, j'ai 21 sous-enveloppes. Quitte en cas de dépassement. Quitte si je risque de dépasser. Est-ce que je ne vais pas, moi, juge d'instruction, être tenté de prendre des décisions ou de retarder une décision ou au contraire de refuser ou au contraire de, par exemple, d'augmenter de manière considérable la mise au rôle de la constitution de partie civile? Donc, autrement dit, on risque d'avoir cet effet de report de la charge financière sur quelqu'un d'autre. Alors, est-ce possible? Bien entendu, dans l'absolu, oui, c'est possible. Maintenant, dans la réalité, c'est une autre chose. Mais quand même, la mise au rôle de la constitution de partie civile, je pense qu'il y a vraiment la matière à réflexion. Alors, je crois qu'il y a une série... 7 minutes encore. D'accord. Il y a une série d'actions qu'il faut entreprendre si on va vers l'autonomie, parce que cette mutation, elle ne va pas se faire du jour au lendemain, ça va prendre énormément de temps. Nous avons en Belgique un ministère public qui est structuré, nous avons un siège qui ne l'est pas. Je pense qu'il est vraiment essentiel qu'au niveau du siège, il y ait une structuration du siège, c'est-à-dire un cadre avec des structures qui décident à un moment donné. Qui décident, qui ont cette compétence. Donc il faut pouvoir attribuer ces compétences et dire pour que faire. Il faut aussi, par exemple, aux côtés du ministère public, aménager les compétences du collège des procureurs généraux. Deux, ce qu'il me semble indispensable, c'est qu'il y ait un lieu, un organe, qui a une vue panoramique sur la situation de l'ordre judiciaire, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Il n'y a pas d'organes stratégiques composés des piliers traditionnels, le siège, le ministère public, le ministre de la Justice et son administration, et pourquoi pas l'Institut de formation et la Commission de modernisation, qui pourraient, au sein de cet organe, avoir cette indispensable vue panoramique et globale sur l'ordre judiciaire et sur tous les éléments et toutes les initiatives qui sont en cours. Trois, capacité professionnelle. Il faut à tout prix donner cette capacité professionnelle indispensable. Si on veut gérer demain, on doit avoir les moyens. Donc il faut pouvoir compter sur l'Institut de formation judiciaire, né en 2007. Je pense que l'ENM, c'est 1958, si mes renseignements sont corrects. Donc il y a un gros rattrapage à faire. Quatre, je pense qu'il faut dresser un inventaire des moyens qui sont présents. Aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens, mais ils sont dispersés dans des conseils, dans des institutions, des commissions, etc. Je pense qu'il faut dresser les moyens et voir s'il n'y a pas matière, nécessité plutôt, à réunir pour mettre à la disposition de l'ordre judiciaire. L'informatique, je citais Nefertiti, c'est peut-être pour demain, mais une stratégie globale en matière d'informatique, c'est, pour l'instant, c'est impossible à avoir. Alors le ministre a pris une initiative que moi je salue, il a créé un forum informatique depuis le 1er janvier. Je pense que c'est très bien, ministère public, siège plus administration, mais on voit bien quand même que le fonctionnement jusqu'à présent c'est un peu difficile. Hein, et que donc disons qu'on va dire maladie de jeunesse, mais néanmoins c'est une structure qui décide et les gens qui y sont n'ont pas toujours conscience qu'ils peuvent et qu'ils doivent décider. C'est quelque chose que nous ne faisons pas assez aujourd'hui, c'est l'accompagnement au changement, c'est-à-dire vraiment mettre au point des projets pour accompagner les gens dans le changement qu'on projette. Il ne suffit pas d'amener une nouvelle application informatique, il ne suffit pas d'amener un projet de description de fonction si à un moment donné, on n'est pas sur le terrain pour discuter avec les gens, pour voir comment on fait et faire remonter éventuellement vers les endroits décisionnels, les difficultés et demander les adaptations nécessaires. Aujourd'hui, cela n'existe pas chez nous, pas suffisamment en tout cas. C'est un énorme travail et ça, c'est travailler l'humain. On travaille l'humain, on travaille les conditions de travail, c'est le bien-être au travail. Et puis bon, il faut être raisonnable, il faut tenir, il faut mettre des délais qui sont tenables. Ce n'est pas aujourd'hui les agendas politiques sont impraticables pour le terrain, naturellement. Donc il faut un agenda du terrain et non pas un agenda politique, un pacte budgétaire. Et puis pour lancer le débat, opportunités, écueils. Les opportunités, un, je pense qu'un consensus politique semble possible, mais je crois qu'il y a un paradoxe, j'y reviens juste après. Deux, moi je vois une attente et une demande d'une partie de la magistrature à plus d'autonomie. Trois, on entend une volonté de s'engager dans des réformes d'ampleur. Il y a aujourd'hui, contrairement à avant, il y a la présence d'acteurs dits de modernisation, l'Institut, la Commission. Il y a de nombreux travaux sur la modernisation, beaucoup de littérature, le milieu académique s'intéresse à toutes ces questions et c'est vraiment, c'est indispensable, le milieu judiciaire aussi. Et puis, je pense que les expériences françaises, les expériences hollandaises, sont très intéressantes et qu'on doit en tirer les enseignements, nous, ici en Belgique, pour ne pas recommencer les mêmes erreurs. Les écueils. Alors, sur le plan politique, les écueils, et c'est mon inquiétude aussi, Nous avons un gouvernement démissionnaire. Sur les 4 ans, nous avons plus de 2 ans d'affaires courantes. Et émergent au Parlement des majorités nouvelles. Puisque le Parlement est en état de marche, en état de voter, en état de travailler, il y a des nouvelles majorités qui se font et qui se défont en fonction de thèmes. Ce qui m'inquiète, naturellement, c'est qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion. Il n'y a pas de pilote dans l'avion, il n'y a pas quelqu'un qui est garant de la cohérence de l'ensemble. Et quand j'entends, par exemple, que tous les partis flamands sont tous favorables au management intégral, sans accorder l'autonomie à l'ordre judiciaire, ben je suis inquiet, naturellement. Je suis inquiet. Autrement dit, si la situation politique perdure, on va avoir vraiment l'adoption de textes qui ne seront peut-être pas cohérents, en tout cas, qui risquent même d'être handicapants pour l'avenir de l'ordre judiciaire. Et puis, c'est ça le paradoxe, il y a une grande inconnue par rapport à l'avenir de l'ordre judiciaire en Belgique. Il y a bien sûr la question, va-t-on défédéraliser ou pas la justice? Autrement dit, va-t-on la régionaliser ou pas? Ou bien, est-ce qu'on va faire autre chose, enfin, quelque chose d'original, que sais-je? C'est quand même un problème. Ce manque de continuité politique, certainement. La situation budgétaire. Et puis, vraiment, je vous le disais, c'est le clou sur lequel je tape, c'est l'absence de vision commune. Quelle justice voulons-nous? Non pas simplement dire trois tribunaux, non, il faut aller très loin. Qu'est-ce qu'on veut exactement? Est-ce qu'on veut que des référendaires participent à l'œuvre de juger? Est-ce qu'on veut que des juristes de parquet aient la signature pour lancer des citations, etc.? Il faut aller très loin, naturellement, dans la réflexion. Deux, inquiétude, départ massif de magistrats et de personnel expérimentés à la pré-retraite. Et le discours, l'avenir incertain, des pensions encouragent naturellement les gens à partir. Trois, inquiétude également pour le faible niveau d'expertise en matière de gestion et de management. On ne pourra pas faire tout très vite. Quatre, nombreux retards dans les nominations de magistrats et dans les responsables administratifs. Ça crée des turbulences qui organisationnelles. Et moi, j'y vois un danger pour voir l'arriéré judiciaire replonger. Et donc, de voir ressurgir le discours politique disant « mais ils ne savent pas gérer ». Et donc, vous voyez, tout est dans tout. Et puis le management sans réelle autonomie, comme on le voulait, comme certains le veulent. N'est-ce pas un miroir aux alouettes, tout compte fait? Un coup de bluff. Parce que être manager, ça veut dire avoir une marge de manœuvre, en principe. Or, le chef de corps ne dispose que d'une marge de manœuvre extrêmement faible. La gestion des ressources humaines, il ne choisit pas son personnel. Il y a le statut, il y a le Conseil supérieur de la justice. La gestion des bâtiments, c'est une politique centralisée. Co-gestion, régie des bâtiments et justice. La gestion des frais de justice, mais il y a la tarification, il n'y a aucune maîtrise. Il y a l'indépendance des magistrats qui peuvent engager des frais comme ils l'entendent, naturellement. Il y a les processus. On n'est pas libre au niveau des processus puisqu'il y a toutes les règles en matière de procédure judiciaire et de procédure pénale. Fort heureusement, d'ailleurs, on est bien d'accord. Mais donc, cela veut dire que tout compte fait, le management sans autonomie du pouvoir judiciaire risque d'être vraiment un coup de bluff. Et puis enfin, j'en termine, la conjugaison de deux facteurs, donc l'absence de vision commune de la justice et la situation politique actuelle, pour moi, c'est vraiment un grand danger. Quand on me dit qu'on va parler du tribunal de la famille, quand on me dit qu'on va parler de l'évaluation des chefs de corps, de la structuration du siège, de la discipline des magistrats, sans avoir réfléchi à l'ensemble, je suis quand même très inquiet et je ne suis pas sûr que sur ces différents thèmes, nous trouverons les mêmes majorités. Donc, on risque d'avoir une sorte de benchmarking politique, de shopping des partis sur ces questions. Et puis, je vous disais, j'en conclus par là, la question de la défédéralisation de la justice, la cohérence d'un nouveau système, pour moi, ça me paraît essentiel, mais je ne vous cache pas que j'ai peur qu'on nous présente un bébé à trois têtes. Je vous remercie.